I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, Clémence, c'est notre M aussi.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit:
t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs dont un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, tiens. J'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut Rafik.
Salut Clémence, on m'a promis un canapé alors je suis venu.
Et Stéphane, salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et oui, effectivement, on est dans un studio refait à neuf. Vous en verrez peut-être quelques images dans quelques temps. On est en train de peaufiner les derniers détails, mais vous verrez, on a refait la déco.
Sur Twitch, quoi.
Voilà, ça sera disponible sur Twitch, on vous tiendra au courant très vite. Et puis à la technique, rien que pour vos oreilles, on le surnomme l'homme au tympan d'or. Bonjour Alain.
Wow.
Salut Clémence.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Son nom c'est Bond, James Bond, et c'est de lui qu'on parle cette semaine. Et oui, impossible de faire l'impasse sur Mourir peut attendre, le nouveau film mettant en scène le célèbre espion. Pour ce 25e opus, on retrouve pour la toute dernière fois Daniel Craig, mais cette fois exit le matricule 007. Le film s'ouvre sur un James Bond à la retraite, qui se la coule douce aux côtés de Madeleine Swann. Mais si, rappelez-vous, elle était déjà présente dans Spectre, le film précédent. Alors bien sûr, pour Bond, le répit est de courte durée, il finit par reprendre du service pour aider ses anciens collègues à retrouver un scientifique enlevé, et évidemment ce n'est que le début. So long donc Daniel Craig, après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et 007 Spectre, l'acteur britannique incarne le personnage créé par Ian Fleming pour la cinquième et ultime fois avant de tirer sa révérence. Pour ce baroud d'honneur, il est accompagné de Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes ou encore Christoph Waltz, pour ne citer qu'eux. Aux manettes, Kari Joji Fukunaga, découvert par le grand public grâce à la première saison de la série True Detective, il vient remplacer Danny Boyle, initialement annoncé à la réalisation, mais qui avait finalement quitté le projet mi-2018 suite à des différends artistiques. Côté scénario, en plus de Fukunaga, on retrouve des habitués de la saga, Neil Purvis et Robert Wade, mais pas seulement. Phoebe Waller-Bridge, qu'on connaît principalement pour les séries Fleabag et Killing Eve, est aussi de la partie. Tout d'abord programmée pour avril 2020, la sortie officielle est reportée plusieurs fois, notamment à cause de la crise sanitaire. La première mondiale a finalement lieu le 28 septembre 2021 à Londres. En France, Mourir peut attendre sort en salle ce mercredi 6 octobre. Alors, c'est le moment où je me tourne vers l'équipe. Mourir peut attendre, est-ce que ça valait le coup d'attendre? Est-ce qu'on va le voir au cinéma? Attention, Rafik, c'est nouveau, hein. Tu peux répondre uniquement par oui ou par non. On va développer et rentrer dans le détail juste après.
Est-ce qu'on va voir au cinéma? Oui.
Stéphane?
Ouais.
Ouais, très bien. Eh bien, maintenant, vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, Rafik, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, donc je propose qu'on commence par ton avis.
Alors oui, ça fait longtemps que les salles de cinéma m'ont pas vu non plus. Pourquoi on va le voir au cinéma? Déjà parce qu'en tant que film, ça ressemble à un film. Et en période de vache maigre, faut pas trop faire le difficile. Moi, j'avais la sensation d'être dans une salle et de regarder un film qui avait été pensé pour être vu dans une salle de cinéma. Alors ça va pas chercher dans les hautes sphères du cinéma d'action, et de toute façon, à mes yeux, la franchise de James Bond n'a jamais vraiment côtoyé ces sphères-là.
Au moins,
t'as la sensation d'être sorti de chez toi pour aller voir quelque chose. Donc on reviendra un petit peu hein, sur sur cet aspect purement cinégénique. Donc en tant que film, oui, je considère qu'il faut aller le voir en salle. En tant que James Bond, ça va être peut-être le débat de deuxième partie de ce podcast.
Ouais, c'est-à-dire que en gros, ce qui est assez surprenant, y compris dans un James Bond, hein, je trouve, de ces dernières années, c'est, enfin, moi j'ai en mémoire Quantum of Solace notamment, qui était littéralement
irregardable.
En fait, le montage était absolument aberrant, quoi. Ce qui est vraiment bien en fait dans celui-là, c'est que tu sens le travail des cascadeurs, tu sens le travail de tous les gens en fait de la seconde équipe qui ont essayé vraiment d'obtenir des plans, qui ont les moyens d'obtenir des plans assez dingues. Hein. La scène d'action d'ouverture, elle est plutôt chouette, moi je trouve en fait dans sa façon de.
Alors, comme tu dis d'ouverture, c'est pas vraiment la scène d'ouverture, mais la scène qui se passe en Italie.
Ils ont fait un truc qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que en gros, t'as un très long pré-générique, oui. Où t'as déjà en fait un flashback sur
l'enfance de Madeleine
Swann. Voilà, c'est ça. Et en fait, qui reprend directement derrière sur une scène d'action où James Bond se fait piéger sur la tombe de Vesper, c'est ça ?
Donc, tout à fait.
Et en gros,
poursuivre dans les rues d'une petite ville, enfin, j'ai plus le nom de la ville italienne, ouais. Dans son Aston Martin.
Et les deux scènes fonctionnent. Hein, moi, je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans les deux scènes, quoi.
Oui.
Mais je parlais vraiment de la scène d'action parce que, en gros, moi, je trouve que déjà, c'est un truc qu'on a vachement perdu. J'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, notamment quand on parlait de Fast and Furious. Où tout est cuté, monté, et d'un seul coup, en fait, tout ce travail-là, il est complètement jeté à la poubelle, quoi. C'est pas le cas. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a de la tension, en fait, dans la scène. Il y a des petites idées de mise en scène. Il y a même le truc où il la laisse dans le train à la fin, où t'as vraiment un travelling latéral, en fait, pour la faire.
Alors, ouais,
où le truc dit, oui. Merde, il y a un réalisateur derrière le film, ouais. Tu vois. Et surtout, encore une fois, comme c'est plus trop. Enfin, depuis très longtemps, moi, je vais remonter vraiment même aux années 80 avec John Glenn ou des trucs comme ça. En fait, c'est ce réalisateur un peu attitré qui était là pour tous les films, quoi, et qui faisait plus ou moins tout le temps la même chose, quoi. C'était propre, c'était soigné, ça dépendait des films, hein, mais on avait quand même déjà, en fait, on sentait qu'on était sur des rails, quoi. Et là, mine de rien, voilà. Après, ça participe, je trouve, dans une problématique, en fait, qui est liée à la façon d'aborder l'ère Daniel Craig, on va dire, tu vois. Qui est que, justement, en fait, il y a l'idée d'essayer de masquer que c'est des films de franchise, en essayant de faire des films pseudo d'auteurs, qui n'en sont pas vraiment non plus, quoi, en fait. Avec Sam Mendes, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Là, avec Fukunaga, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi. Et c'est un peu la raison pour laquelle ça dure 2h43, et t'as envie de dire non.
Alors, c'est vrai que là, on a un James Bond qui bat le record en termes de durée. On est à 163 minutes.
Mais pourquoi moi, franchement, c'est la grande question. C'est 2h43 pour raconter ça, c'est voilà quoi.
Pour parce qu'il faut détricoter, pour tenter de retricoter par derrière. Sur la question purement cinégénique, là, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Stéphane. En fait, il y a une forme de. Ce qu'on pourrait considérer comme de la gratuité cinégénique, et c'est ça qui est bienvenu. Donc cette scène d'action d'ouverture qui se passe dans la ville, c'est Matera. En fait, c'est une scène d'action qui utilise la topographie très particulière de cette ville, qui a pas du tout été conçue pour des voitures, et d'imaginer effectivement quel bordel peut créer une poursuite en voiture dans cette configuration là.
Avec des petites ruelles pavées très étroites.
Voilà, avec des escaliers qui sont à des endroits bizarres, etc. Bon, et donc qui permet de créer toute une forme de surprise. Progressif, enfin, il y a une chorégraphie des éléments qui fait partie du plaisir cinématographique. La scène d'ouverture, donc il voit l'enfance et le traumatisme de Madeleine Swann avec en gros sa famille qui se fait buter par un tueur qui reviendra par la suite, un tueur masqué. Donc là on est dans une espèce de...
Alors on prévient juste, on va spoiler comme des rats, ouais. Absolument, ah, oui. Tout l'épisode. Hein. Donc là, si jamais...
Là, c'est la scène d'ouverture.
Voilà.
Donc effectivement, on est là dans une espèce de slasher suédo-japonais en termes de d'esthétisme, pas du tout dans un James Bond, hein, faut le dire, mais effectivement on reconnaît la patte du réalisateur de True Detective dans une espèce de fétichisme de comment dire du dénuement, le tout blanc, voilà, le tout vide, avec tout un truc autour du lac gelé sous lequel la gamine est coincée, etc. Donc, en gros, on fait des images. Est-ce que Stéphane notifié par rapport à la scène à la scène du train, c'est aussi quand je disais qu'il faut aller voir en salle parce qu'on a l'impression de voir un film de cinéma. Je suis plus habitué à voir des scènes entre guillemets aussi gratuites. C'est-à-dire en gros c'est James Bond qui se débarrasse de Madeleine, enfin qui lui dit adieu. Et elle monte dans le train. Lui, il est sur le quai. Et comme elle se résout pas à le perdre de vue, elle se met à marcher dans les couloirs du wagon pour qu'il reste dans son angle de vision.
Elle remonte le wagon à contresens.
Voilà. Ça, c'est un truc qu'on a déjà vu au cinéma. Hein. Ça existe depuis l'époque du muet, mais qui fait partie justement des plaisirs purement cinégéniques. Il y a aucun autre média qui peut nous offrir ces moments-là. Donc c'est aussi ce genre de truc qui te fait dire, mais en fait, oui, je suis en salle. Je suis pas en train de regarder un sitcom, quoi. Et c'est pour ces petites raisons-là que le film mérite d'être vu en salle.
Dans la scène finale, en fait, dans le bunker, il y a un plan séquence en fait d'action qui est bon. Moi, je trouve pas, parce que je contrairement à Rafik, je suis pas hyper fan de True Detective, moi, et j'avais déjà un gros problème avec leur plan séquence en fait dans True Detective. Mais là, il y a un peu, c'est pareil, il y a un petit plan séquence en fait où ils essayent de suivre James Bond dans un couloir et tout,
dans un escalier,
et en fait il grimpe le truc. C'est proprement fait, hein. C'est cool en fait, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vrai plan séquence un peu correct, on va dire, au cinéma, quoi. Mais c'est pas non plus c'est pas du De Palma, hein, faut pas déconner, quoi. Mais disons qu'en fait il y a tout un tas de trucs comme ça,
il y a une intention,
voilà,
en fait,
dans la narration qui se pose en fait. C'est-à-dire, c'est de la pure narration. C'est-à-dire que la scène d'ouverture avec la petite Madeleine, elle a un rapport, parce qu'il y a un truc qui se passe plus tard dans le film avec un enfant, elle a un rapport avec le fait que quand elle est sous l'eau, elle remonte. Tu comprends instinctivement que c'est d'elle qu'on parle, parce que même s'ils te le disent pas automatiquement, enfin voilà, c'est des trucs comme ça en fait, tout bête, qui font que tu te dis, il y a un réalisateur derrière le film en fait à qui on a donné un peu les moyens. Alors c'est pas encore une fois, c'est pas du Hitchcock, hein, mais c'est soigné.
Ça fait son taf. Ouais. Alors par contre,
Hans Zimmer ouais, qui fait de la musique de merde, par contre, mais vraiment de merde. Alors pour le coup, t'as vraiment pas l'impression d'être dans un James Bond, hein. Tu vois, la musique, enfin, je veux dire, expédions ça rapidement quand même, hein, parce que voilà.
C'est Billie Eilish qui signe.
C'est pareil, je n'ai pas trouvé ça. Moi, je l'avais pas écouté en fait, parce qu'elle est dispo depuis un an et demi, du coup. J'avais pas écouté en fait, et du coup, je trouve ça un peu cheap aussi, quoi. Je trouve ça un peu ça manque de corps, je trouve, en fait, cette chanson, quoi. Mais bon, c'est rien à côté de la musique d'Hans Zimmer, qui est littéralement, enfin, c'est la honte. Hein. Il s'est pas fait chier une seconde, quoi. Et je crois que c'est la seule fois où il fait un James Bond en plus.
Oui, le truc, c'est qu'en fait, il fait aussi ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'il récupère des motifs musicaux des films précédents, parce qu'il y a une intention narrative à renvoyer en fait à l'histoire de la franchise. Ce qui est un peu dommage, parce que ils ont sous la main un gars qui pour le coup est un vrai fan de James Bond et un excellent compositeur, qui est David Arnold, qui depuis les années 90 essayait justement de remettre l'héritage de la musique de James Bond dans une nouvelle configuration musicale, on va dire, mais comme il est pas assez punchy, entre guillemets, il est pas Zimmer, quoi. Donc ils ont préféré le père Hans.
Mais est-ce que dans la mesure où on est là pour clore aussi un chapitre, quand même, c'est le dernier film de Daniel Craig, on l'a dit, est-ce que ça a pas du sens quand même de justement faire tous ces emprunts aux bandes son des films précédents?
Moi, les bandes son, je sais pas, mais déjà en fait c'est une bande son, mais c'est pas que la bande son, c'est-à-dire que en gros il y a une ombre assez énorme, mais qui est une ombre en fait qui est là depuis. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est quand même un film qui a été vachement décrié quand il est sorti au service secret de Sa Majesté, notamment à cause du fait que c'est George Lazenby qui joue le rôle, et que c'est la seule fois en fait qu'il a interprété James Bond. Mais il est hyper matriciel, ce film, en fait, dans la saga, et là il le cite ouvertement avec la chanson de Louis Armstrong, mais pas que, il le cite avec les thématiques. C'est-à-dire, en fait, au service secret de Sa Majesté, donc je spoil au service secret de Sa Majesté, si vous n'avez pas vu au service secret de Sa Majesté, qui a quand même maintenant presque 50 ans, enfin même plus, je crois, il a 50 ans, c'est le seul James Bond où James Bond se marie. Il trouve son égal, en fait, qui est interprété par, moi je trouve, la géniale...
La meilleure James Bond girl de tous les temps.
Ouais. Diana Rigg, quoi, qui est vraiment une actrice formidable, qui nous a quitté l'an dernier, quoi. Et en gros, le spoil, en fait, du film, c'est qu'elle meurt juste après leur mariage. Elle se fait à la base, c'est Spectre, je crois, qui essaye de tuer James Bond, et en fait ils se trompent et ils ratent leur coup, et en fait c'est elle qui meurt, et c'est la fin. Ça dure littéralement une minute, hein, c'est la fin du truc, et c'est en gros, c'est une manière de dire, de toute façon James Bond sera toujours James Bond. C'est-à-dire, en fait, il y a pas, même s'il essaye de sortir de son rôle de James Bond, il pourra pas y arriver.
Il peut pas
se caser, quoi. Il peut pas, voilà. Et ça fait partie de la figure tragique du personnage. Là, ils font littéralement l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, en citant ouvertement en plus le film, c'est-à-dire que, ah, mais en fait, James Bond, il peut pas avoir de famille, il peut pas se marier, il peut pas machin. Je vais vous prouver que si.
Bah oui, sauf que non.
Sauf que non, et en fait, sauf que non, mais sauf que si quand même. Parce que en fait, le problème, c'est que tu... Alors, est-ce qu'on spoil? Est-ce qu'on rentre dans le...
Non, oui, il faut spoiler.
On a prévenu qu'on allait spoiler. Voilà.
Une des raisons pour lesquelles Danny Boyle a refusé de faire le film, apparemment, c'est que quand on lui a dit « il faut que James Bond meure », il a dit « mais c'est une idée complètement débile ». Et il a fait, moi je vais pas faire ça. Donc, et Dieu sait que moi je suis pas un grand fan de Danny Boyle, hein, forcément, mais là il a raison, à mon sens. Parce que, pour moi en tout cas, c'est comme ça que j'aborde le truc. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, après 25 films, après 60 ans d'existence au cinéma, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait montrer que James Bond n'a pas montré en fait jusque-là. Et en gros, ce que tu retiens pour moi quand tu sors de Mourir peut t'attendre, c'est que, James Bond a une famille. Il a une petite fille dont il ignorait l'existence, quoi. Il a une femme qu'il aime depuis X temps, ce qui était déjà plus ou moins amorcé dans l'idée qu'il peut y savoir, vivre le deuil en fait d'une histoire d'amour et vivre le deuil en fait parce que ça, le personnage de Vesper est morte en fait dans Casino Royale. Souffrir de sa condition d'homme normal, ce qui n'est pas James Bond, hein, tu vois, c'est aussi ça le truc, quoi. C'est-à-dire de souffrir en fait d'une rupture, de souffrir d'une trahison amoureuse, etc., etc. Et de se sacrifier littéralement en fait pour le monde. Et là, alors outre le fait que moi je la trouve assez ratée la scène, émotionnellement, c'est-à-dire que vraiment, enfin, je trouve ça assez, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais on va peut-être en parler plus tard. James Bond, c'est une icône. Il faut le traiter comme ce que c'est, en fait, une icône. Et en gros, le faire mourir, en fait, ça lui donne, c'est lui donner un espèce de corps déjà, on sait qu'il y aura un prochain James Bond.
Autant que la franchise va s'arrêter.
Et en gros...
Enfin, il y aura un prochain 007, en tout cas.
Voilà, même qu'il ne sera pas forcément, d'ailleurs, celui qui tente d'annoncer dans le truc, comment elle s'appelle, la chaîne à Lynch, quoi.
Ah non, c'est déjà acté que ça ne sera pas
elle. Ouais, mais parce qu'en fait, déjà, Daniel Craig a dit qu'il ne fallait pas qu'une femme joue le rôle, parce qu'en gros, elles peuvent créer leur propre rôle pour elle, et c'est, bon, à la limite, ça se tient, mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'en gros, il y a tout cette espèce de truc autour de cette notion-là, qui est que effectivement c'est un matricule en fait, le matricule 007, mais dans ce cas-là, traiter le personnage comme ça aussi, c'est ça le problème en fait. C'est que en fait quand t'as Daniel Craig qui d'un seul coup incarne ce truc là c'est comme si en fait c'était pour moi on rentre dans une espèce de logique à la Fast and Furious.
Mais est-ce
vas-y.
Est-ce que le fait que James Bond meure à la fin de ce film là ça n'ouvre pas la porte justement à un reboot à nouveau? À...
Mais on n'en avait pas besoin. En fait, personne s'est posé la question en fait sur Roger Moore. Personne s'est posé la question sur Timothy Dalton. C'est juste que t'aimes ou que t'aimes pas l'acteur, si tu veux, qui interprète ce rôle-là. Moi, je sais que la période Roger Moore, elle m'intéresse pas particulièrement. J'aime bien Pierce Brosnan, mais j'aime pas ses films. En fait, je trouve que lui, il est bien dans le rôle, il l'incarne bien. Et voilà. Mais c'est vrai que on en a pas besoin. Alors, est-ce qu'on en a besoin dans la dramaturgie de ces 5 films-là? C'est pareil, je trouve pas ça hyper bien abordé, quoi.
Leur problème, si on peut parler de problème, c'est qu'ils essaient de régler leur compte d'une certaine façon avec une franchise qui, au départ, est une émanation culturelle. C'est-à-dire que le James Bond des années 60, il a pas été calculé, il a été fabriqué par l'époque. Et le succès délirant et inattendu que ça a représenté, il a pris de court en fait même les producteurs qui savaient pas exactement ce qu'ils avaient sous la main et qui ont donc décidé à partir de là d'en faire une formule. L'épisode au service secret de Sa Majesté, le fait de faire de Bond un personnage qui se marie et qui perd sa femme, c'est effectivement une façon de le condamner et de dire au public de l'époque, ce personnage ne sera jamais un personnage, c'est-à-dire ça sera jamais en gros un être humain. Il va pas avoir de vie, il va rester une pure fonction. C'était l'ouverture d'une formule en fait. Et les James Bond se sont distingués par le fait d'être purement formulaïque. D'ailleurs, en gros, on reprend tout le temps les mêmes séquences avec les mêmes personnages clés, Q, Moneypenny, M.
Ce qu'ils font d'ailleurs ici aussi, hein, encore une fois.
mais sans chercher à leur créer une quelconque backstory ou à les inscrire dans une quelconque humanité.
C'est toujours les mêmes ingrédients, la même recette.
Voilà, avec des variations à chaque fois qui étaient les variations de lieu et quelques petites idées sur autour des scènes d'action, etc. et des gadgets.
Et moi, je rajouterais un truc d'époque, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi en fait sur le fait que les James Bond n'ont pas forcément brillé dans le cinéma d'action, c'est-à-dire que même si l'ombre d'Hitchcock est évidente en fait sur les débuts de Sean Connery. Déjà, en fait, il y a une dangerosité en fait chez le personnage qui existait quasiment pas à l'époque. En fait, c'est-à-dire que, en gros, plus encore une fois que le fait d'incarner un mâle alpha, etc., etc. Moi, ce que je retiens en fait de la période de Sean Connery, c'est que même si c'est ça, hein, évidemment, tu vois, il y a des trucs, il détourne une lesbienne, enfin, des trucs, enfin, c'est complètement ouf, quoi, tu vois. Enfin, voilà, c'est très très masculin, tu vois, dans la logique des choses. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, comment dire, est dangereux. Il tue. C'est-à-dire, il a ce qu'on appelle le permis de tuer. Donc, en gros, et c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. Donc, du coup, cette espèce de dangerosité s'en faisait un personnage complètement hors norme, en fait, dans ce qui existait à l'époque. Et quelqu'un qui se fout complètement de la vie d'autrui. Et en gros, c'est pas forcément... Alors, que ce soit devenu une icône et que ce soit devenu un truc, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ces scènes d'action-là, elles étaient vraiment créées, en fait, autour de ces logiques-là. Et surtout... Bah à l'époque, on n'avait jamais vu ça.
Ce que je disais, ce que je soulignais, c'est que dans les années 60, c'était pas quelque chose qui venait... C'était pas du top-down, si tu veux.
Non, non.
C'était la culture populaire qui avait créé James Bond.
Sauf que...
La dangerosité du personnage, son caractère outrancièrement viril, par exemple, ça, c'est un truc qui a été complètement oublié. C'est le public féminin qui l'a créé à l'époque. C'était pas une intention des producteurs de se dire « On va créer un fantasme dans lequel tous les hommes vont plonger. » C'est le public féminin qui a répondu extrêmement favorablement au jeu très rugueux de Sean Connery, et les mecs se sont dit ok, on tient un truc là, on le lâche pas. Donc ce qui est aujourd'hui rigolo, parce que quand on revient sur le caractère comment dire, paternaliste, misogyne de James Bond, d'oublier que c'est un public féminin qui l'a demandé à cette époque là parce qu'elles avaient envie d'être secouées dans les années 60 en fait par ce genre de figure. Mais ensuite rajouter, dans les années suivantes, il s'est mis à suivre des modes, c'est-à-dire que
devenu un gros beau.
Non, mais dans son rôle culturel, on va dire. C'est-à-dire que dès le début des années 70, il y a le succès des films de Kung Fu, il y a le succès des films de Blaxploitation, et donc on se dit ok, on va mettre ça dans James Bond, il y a Star Wars qui arrive, on va envoyer James Bond dans l'espace. Bon, donc
à partir de là,
il a suivi l'ère du temps, parce que c'était devenu une formule de toute façon.
Et la problématique de l'ère du temps, c'est que ça s'est vraiment arrivé jusqu'à vraiment dans les années 90-2000, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu regardes Permis de tuer, par exemple, avec Timothy Dalton, c'est un Joel Silver, en fait, de l'époque de Die Hard et
Rambo.
L'arme fatale, quoi. Et en fait...
Et Rambo.
Ouais.
James Bond a fait son Rambo aussi.
Mais c'est pareil, en fait. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand tu regardes même le Brosnan, où d'un seul coup, en fait, le méchant, c'est Internet, en fait, dans un des films. Tu vois, c'est des trucs comme ça où tu fais, bon, alors, c'est quoi cette nouveauté Internet? Allez, hop, on la cale dans le film. Tu vois, donc c'est des trucs, en fait, où... Et le problème, en fait, c'est que donc du coup, quand tu fais des films comme ça, on va dire, quand t'es dans cette formule-là, quand tu en arrives à un truc comme Mourir peut t'attendre, c'est que t'as tout un truc autour du virus, par exemple, dans le film, t'as tout. Et en vrai, enfin, moi, je suis désolé, mais 2h43 pour raconter ça, tu sais, au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais en fait, vous assumez la formule sans l'assumer, tout en cassant en fait ce que le personnage est censé représenter.
Justement, ils n'assument pas la formule, et ça c'était une problématique qui a parcouru la franchise depuis que Barbara Broccoli l'a reprise, c'est-à-dire à partir de l'époque de GoldenEye, où déjà à l'époque ils se disaient ok, on est en train de travailler avec un personnage qui est un dinosaure, parce qu'effectivement Bond, il a été créé dans le contexte de la guerre froide, ses ennemis c'était le bloc de l'Est, les communistes, etc. Et dans les années 90, non seulement la notion de virilité a changé, donc il faut arrêter avec le rugueux Sean Connery, mais en plus la géopolitique a changé, et là on commençait à avoir des justifications sensitive, bizarre. Enfin, moi j'ai ce plan là où t'as Pierce Brosnan qui erre dans un cimetière de statues de Léline. Enfin, là, qu'est-ce que je suis pas venu voir James Bond pour ça. Je veux pas qu'on me fasse la morale sur ah là là, mon Dieu, le monde a changé. Je suis trop Arthur Rimbaud.
Et puis il y a pas que ça en fait. C'est-à-dire il y a ces moments où d'un seul coup, en fait, James Bond il pleure devant des palmiers sur une plage, et t'as envie de dire mais en fait c'est pas James Bond.
Voilà.
C'est
James Bond, il pleure pas.
Non, mais,
jamais.
Mais non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que c'est un truc de voilà, enfin, cette espèce de fausse sensibilité, parce que c'est plaqué. Ça ne colle pas avec le personnage, en fait. C'est-à-dire que, et donc, on en vient à ce qu'on dit sur Mourir peut attendre. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de lui donner un gamin, déjà, tu me l'as dit toi-même en antenne, le mec, il exprime zéro émotion.
Alors, c'est vrai que il découvre qu'il a un enfant, donc. Pour faire le raccourci, donc Madeleine Swann, il la quitte dans ce train, et puis l'histoire reprend 5 ans après, et il découvre un petit peu plus tard dans l'histoire, il retrouve Madeleine, et il découvre qu'elle a une fille âgée de 5 ans, et on comprend, sans que ça soit dit vraiment explicitement, mais que c'est sa fille à lui. Et alors, il présente absolument aucune réaction. À aucun moment, tu as l'impression que ça le touche.
À tel point que même narrativement, tu te demandes si en gros, parce que Lana elle dit elle est pas, c'est pas ta fille, elle lui dit au début, et toi tu sais que c'est sa fille forcément, tu vois, que tu te demandes si c'est du coup si c'est vraiment pas sa fille en fait, parce que tu te dis c'est incroyable, et il faut que les mecs te le disent à la fin quand même.
Elle a ses yeux.
Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que donc tu te retrouves avec ce truc là, donc d'un seul coup, bah ça devient James Bond de la tendresse, et en gros, non mais c'est vrai, et en fait il se dit moi je vais sauver le monde parce que je vais sauver ma fille.
Et il exprime aucune émotion aussi parce qu'en fait il cherche à être un homme, et ça c'est un truc, moi je m'étais fait engueuler, je m'étais tapé un shitstorm à l'époque de la sortie de Couscous Royal parce que j'avais fait un texte qui s'appelait Les Fifis à sa maman, où j'expliquais justement que le James Bond nouveau était en fait un mec qui cherchait à devenir un adulte mais qui savait pas comment faire, que le personnage de M dans ce reboot incarnait très clairement sa mère, passait son temps à l'engueuler, à lui retirer son forfait internet parce qu'il avait buté un membre d'une ambassade, tu vois, mais c'était honteux de le rétrograder à ce niveau-là, et en même temps ça s'expliquait par le fait que le public de ces films-là avait changé depuis les années 60, et c'était un public justement d'adolescents pour la plupart qui refusait de grandir, qui voulait pas quitter les parents, et donc ils allaient pas s'identifier à un mec qui dans les années 60 représentait l'absolue indépendance de tout sauf de la couronne britannique. Mais en tout cas James Bond, c'était un mec qui se faisait tout seul, qui voilà, il avait pas d'amis, il avait pas de meuf, il s'en bat les couilles, et tu l'emmerdes et il te bute. Bon. Et on n'était plus dans cette configuration au début des années 2000. Et Daniel Craig, il a vraiment joué le rôle du gamin qui se découvre progressivement. Ça a été finalement explicité, hein, que basiquement que M c'était quasiment sa mère dans le final de Skyfall, voilà, où il l'enterre. Et donc aujourd'hui, avec celui-ci, il est l'heure pour lui de devenir un père, quoi. Et on te montre qu'il sait pas comment s'y prendre. Et le jeu de Daniel Craig, il est calqué là-dessus. C'est-à-dire, c'est un jeu ou pour si t'es adulte, c'est parce qu'en fait tu fais la gueule. Mais c'est vrai, ça, c'est vraiment ça. Ouais, enfin, là où tu demandes pas à Sean Connery de faire la gueule pour montrer que c'est un adulte. Il rentre dans une pièce, il impose sa présence parce que il sait qui il est et ce qu'il doit faire. Et ce qui est pas du tout le cas de Daniel Craig, qui est tout le temps en train de se dire mais ça se trouve elle m'a trahi,
sans compter qu'il y a aussi cette problématique, c'est que enfin moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec Daniel Craig dans le rôle de toute manière, quoi, de base, hein. Je trouve qu'il a un physique de déménageur, quoi, tu vois, c'est pareil, il a pas un physique de
ce qui
monde,
pourrait
quoi.
Ne pas être un problème,
non, mais ce qui pourrait ne pas être un problème, mais c'en est un. Et en fait, et c'en est d'autant plus un que en gros le mec l'acteur, hein, se plaint lui-même en fait du rôle depuis, alors je peux comprendre, hein, que quelque part en fait ça soit très difficile de gagner énormément d'argent pour faire un film en fait qui rapporte beaucoup beaucoup d'argent et te permet de tourner tous tes autres films en fait à côté qui vont pas forcément rapporter autant d'argent, etc., et de continuer ta carrière, tu vois. Je comprends, c'est un problème. Mais tu vois, quand il t'explique qu'il préfère s'ouvrir les veines que de tourner un James Bond, en fait, moi, forcément, ça teinte ma vision du mec. C'est-à-dire que si d'un seul coup il était brillant dans le film, je me dirais bon, il est brillant dans le film, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en gros, ça se voit en fait que ça le fait chier. Ça se voit qu'il veut pas faire ça. Ça se voit qu'il se sent prisonnier du rôle. Ça se voit que. Tous en fait ne savent pas vraiment quoi faire avec ce personnage-là, que voilà. Et j'ai presque envie de dire l'idée, si tu veux, quand Casino Royale en fait ça a été fait d'une manière en fait un peu, je trouve, malhonnête à l'époque, parce que ce qui s'est passé c'est que Brosnan, et ça c'était pareil, c'était très public en fait, on savait que Brosnan se foutait sur la gueule avec les producteurs parce qu'il avait une idée très spécifique de ce qu'était James Bond et les producteurs lui disaient non. Et il se pliait à ça parce que c'était son rôle fétiche. Lui, pour le coup, il voulait vraiment le jouer, James Bond, quoi. Et il a même failli le faire dans les années 80. Et en fait, ça lui était...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça lui était retiré.
Et finalement, il l'a joué dans l'affaire Thomas Crown, son James Bond.
Ouais, James Bond. Et en fait, le truc, en gros, c'est que quand Tarantino a dit qu'il voulait faire Casino Royale dans les années 60 avec Pierce Brosnan dans le rôle, etc., etc., Pierce Brosnan s'est jeté sur l'idée. Il a dit, mais regardez, il faut qu'on fasse ça, il faut vraiment qu'on fasse ça, c'est une super idée. Et c'est une super idée parce que, en vrai, le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux pas faire James Bond, bah refais James Bond dans les années 60. Déjà, il y a un problème avec James Bond, c'est que ça a été surparodié. Surparodié, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas. Voilà, enfin, il y a Austin Powers qui reprenait littéralement des gags de Roger Moore, quoi. Notamment avec les deux jumelles asiatiques, quoi. Ou enfin, des gags de merde, hein, des gags de beauf en plus, tu vois, des trucs genre Fuck You, enfin, des trucs comme ça, quoi. Des
Fuck You et Fuck Me.
Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est littéralement la même chose dans, je sais plus lequel, dans L'homme au pistolet d'or, je crois. Enfin, bref. Et donc, en fait, quand on est arrivé à ce stade-là, bah oui, le mieux, c'est de revenir, et quand on parle de reboot, c'est de revenir vraiment à l'idée de fétichisme, en fait, de recréer les années 60, de recréer, enfin, etc., etc., une époque. Et là, moi, je pense que c'est vraiment la bonne idée, si tu le fais vraiment bien, quoi, tu vois, pour faire continuer le personnage, c'est de dire, bah, ce personnage, de toute façon, c'est les années 60, c'est les années 70, quoi. Et en gros, le faire, en fait, aujourd'hui, avec l'aura actuelle, ce n'est plus traiter ce personnage-là. Et c'est tout le problème, en fait, de là-dedans. C'est-à-dire se poser la question de est-ce que c'est un 007 ou pas, en fait, vis-à-vis du personnage de la chenille. Et ça, c'est pareil. Ce personnage-là, c'est tellement un acte manqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une nana qui est hyper charismatique, la Chenaline, elle est super, en fait, balèze.
Donc, la Chenaline, dans le film, elle incarne le nouvel agent 007, voilà, qui a remplacé James Bond, qui est à la retraite.
Voilà, et en fait, moi, c'est une nana que je trouve, enfin, l'actrice, en fait, je me rappelle que, et pourtant, elle a fait que des trucs de merde, hein. Elle était dans Captain Marvel, mais je me rappelle d'elle, quoi. Vraiment, elle est hyper, comment dire, moi, je trouve qu'il y a un truc avec cette nana, vraiment, qui est super, mais là, en fait, c'est un acte manqué, ils en font rien.
Ah, c'est pire que ça, c'est carrément insultant. Enfin, tu vois, c'est un token. Elle ne sert absolument à rien. Elle est toujours en retard. Basiquement, elle sert de traceur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il cherche un méchant et il se dit juste, bon, elle est sur la piste, donc je vais aller la griller. Il y a une autre. Là, pour le coup, il y a une James Bond girl qui apparaît dans celui-ci à Cuba, voilà.
Paloma,
voilà, qui en l'espace de 4 minutes a fait oublier toutes les autres présences féminines dans le film parce que c'est un personnage. C'est-à-dire qu'elle elle a un côté un peu gaffeur, un peu désorganisé, etc., qui tout d'un coup l'a fait exister, en fait.
Ces personnages féminins, on le disait en intro, hein, c'est Phoebe Waller-Bridge qui a été embauchée a priori à la demande de Daniel Craig pour justement creuser ces personnages féminins et ajouter aussi une touche d'humour, notamment dans les dialogues.
Alors, pourquoi sur ce personnage de Paloma, il laisse justement faire, c'est-à-dire la possibilité de créer un personnage truculent, agréable à voir, et pourquoi ils font de 007 un token, enfin vraiment un objet qui, un pot de fleurs, quoi, un truc qui sert vraiment à rien, si ce n'est à dire oui, c'est possible que 007 soit une femme. Il y a en plus derrière ça une forme de... Comment dire ? Moi, je pense que dans leur tête, c'est un respect qui, en réalité, transpire le désir de revanche. Le premier Bond, c'est Dr. No, ça se passe en Jamaïque, et c'est un Bond qui a été fait à l'époque, à la fois dans un désir vaguement touristique et de rapprochement politique entre l'Angleterre et la Jamaïque. Mais il y avait un rapport colonial qui était manifeste dans ce film-là. Et on se doute que quand James Bond va en Jamaïque, s'il a envie de se taper une meuf, il demande pas finalement son autorisation. Et là, il y a une scène où il croise donc cette Jamaïcaine dans une discothèque et où ils ont un échange de regards en mode je vais te sauter dans la scène suivante. Elle l'accompagne jusqu'à sa baraque sur un scooter et c'est là où en fait elle se révèle être un agent 007 en mode ah je t'ai bien eu, tu enfin, voilà, on va pas refaire ce qui se faisait dans les 60s. Donc il y a un côté, vous voyez, on a vu les films, on les a étudiés et en même temps on se tient à distance de ce que c'est des valeurs que ces films projetaient. Comment?
Parce que c'est puant. à leurs yeux.
Oui, bien mais sûr. Truc, en fait, mais après... y a un paradoxe dans le fait de vouloir créer un arc narratif, parce que là, depuis Couscous Royal, il y a un arc narratif qui a été créé vraiment autour du personnage de Bond, en se servant de tout ce qu'il a été avant pour l'infuser, parce qu'il faut le dire aussi, le film, celui-ci, il débute par une référence visuelle à Dr. No au niveau du générique. C'est le premier, à ma connaissance, le premier Bond dans lequel on a un barrel gun qui n'est pas sanglant. À la place, on a de la neige. Donc c'est vraiment une façon de dire, voilà, c'est un voile blanc. On efface cet aspect-là. On a dit que la chanson We Have All the Time in the World est un motif musical récurrent en fait dans le film. Il y a plein de références. Bon, évidemment, le fait qu'il va sur la tombe de sa femme assassinée renvoie rien que pour vos yeux, où il se faisait aussi attaquer alors qu'il était sur la tombe de sa femme assassinée. En fait, tous les épisodes, tout ce qui a vaguement tenté de créer une consistance au personnage de Bond dans la série est repris pour être intégré à la narration en mode on rend hommage à tout ce qui a constitué le mythe Bond, et en même temps on n'aime pas ça. On s'en tient à distance. Donc, c'est là enfin, où il y a...
En tout cas,
où on essaie de le retourner, quoi.
Il y a une dissonance, quoi.
Mais ouais. Ça, c'est ce qu'ils font depuis le Casino Royale. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a toute cette idée de dire, voilà, en fait, tu veux pas objectifier mm-hmm. Ursula Andress, en fait, qui sort de la plage, donc on va le faire avec James Bond, sauf que t'as envie de dire, mais James Bond aussi, il était torse-poil, en fait, dans... Je comprends pas la logique, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que...
Oui, mais lui, il avait
pas...
un rôle.
Mais sauf que c'est pas... Bah, Ursula Andress aussi, pour le coup, dans Dr. No. Mais le truc, si tu veux, c'est que, en fait, indépendamment de ça. Si, parce que ça c'est pareil, en fait, il y a plein de Bond girls qui sont pourries, hein. Ça c'est vrai, hein. Mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment bien. Et le truc, si tu veux, c'est que c'est pas non plus, tu vois, enfin, il y a des vrais personnages, tu vois, et je parle pas de Halle Berry dans le Pierce Brosnan, hein. Je parle vraiment même dans les années 60 et tout, quoi. C'est juste que, comment dire, en fait, la problématique, si tu veux, c'est que c'est effectivement le regard du spectateur. C'est pas, en fait, ce que le film a forcément fait. Comme le disait Rafik au début, c'est-à-dire que vraiment, il y a le regard du spectateur, et oui, c'était des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. Une nana qui sort en bikini sur la plage, on ne le voyait pas dans les films, en fait, parce qu'il y avait un côté prude, un côté machin, etc., etc. Et en gros, évidemment, c'est devenu une poster girl, d'accord, tu vois. Mais en gros, moi, je connais personne qui va foutre Daniel Craig, en fait, sur son... Voilà, donc en fait, tu ne recrées rien.
T'as pas de poster de Daniel Craig au-dessus de ton lit.
Moi, non, c'est sûr, tu vois. Non, mais je sais que pour le coup, il y a pas mal de femmes, en fait, qui trouvent cette scène, comment dire, sexy et tout. Hein, et d'accord, très bien, il n'y a pas de problème, quoi. Mais moi, c'est l'intention derrière que je trouve bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, à ce stade-là, autant ne pas faire un James Bond, en fait. C'est ça que je veux dire, autant créer votre propre truc, en fait, et faites ce que vous voulez avec. C'est juste que là, James Bond, ça existe depuis X années. Donc c'est bizarre, en fait, d'avoir cette espèce de rapport amour-haine, en fait, vis-à-vis d'une création qui est en plus une création...
Et ne pas reconnaître que la simplicité de cette création, parce qu'il faut le dire, les James Bond originaux sont des films simplistes, que ça a été créé par un contexte compliqué. C'est-à-dire que James Bond, c'est... d'un côté, on a voulu dire que c'était effectivement l'Angleterre coloniale au service secret de Sa Majesté et tout le bordel. En gros, qu'il était là pour servir les intérêts, comment dire, l'idéologie britannique de son époque. Et en même temps, c'est un objet contre-culturel dans les 60s qui annonce la révolution sexuelle à venir. C'est le double. Enfin, c'est une figure simpliste, mais c'est une figure simpliste qui est née d'une société compliquée. Et aujourd'hui, on règle ses comptes avec la simplicité de la figure. En disant, bah oui, mais tout ça, c'est pas bien. La misogynie de James Bond, c'est pas bien. La misogynie de James Bond, elle renferme beaucoup plus que juste de la misogynie. Et si vous voulez, comment dire, faire durer la franchise, nourrissez-vous de la complexité de la société d'aujourd'hui. Et là, peut-être que vous aurez de quoi construire
ce qui était aussi la bonne idée, moi, je trouve, d'aller chercher justement Phoebe Waller-Bridge, hein, à la base. Hein. C'est juste que, en fait, je trouve que son apport, il se sent pas énormément, en fait, dans le film, quoi. Parce que, après, il y a des problématiques de narration, on va dire. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, ce que je retiens, en fait, de Mourir peut t'attendre, c'est, voilà, ce que j'ai dit. C'est, en gros, t'as deux, trois scènes d'action. Pas trop mal, tu vois. Effectivement, le personnage de Paloma qui est sympa. La Shanna Lynch qui, mais littéralement, disparaît derrière. Quelques plans, en fait, dans des scènes d'action, des trucs comme ça. Et cette idée que, bah, il a un gosse et il meurt. Et en gros, Et avec cette idée que, parce que toute l'idée de Casino Royale, c'est donc de rebooter entre guillemets James Bond, de recréer à leur manière à eux ce que représente Spectre, ce que représente Blofeld, etc., etc. Et donc là, c'est pas que des références, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils se sont complètement, parce qu'on en a pas parlé, du méchant vraiment, mais
justement, je voulais qu'on y vienne.
Voilà, le mec porte un masque no. Tu vois, il a une comment t'appelles ça, une base en fait perdue, tu vois,
donc, qui est la base du Docteur No.
Le méchant, c'est Lucifer Safin, et il est joué par Rami Malek,
qui aurait dû être Docteur No dans leur version à eux. Donc, et en fait, t'as l'impression qu'ils se sont déballonnés. À la dernière, ils ont dit bon, on va pas l'appeler comme ça parce que en fait, en gros, c'est ça la fait pas quoi, tu vois. C'est, mais
il possède un Poison Garden, qui est une référence au Garden of Death, rien que pour vos yeux.
Voilà, et en fait, si tu veux, donc c'est très bizarre parce que. Tu sais que ça s'inscrit dans un espèce de truc aussi où, comme c'est la première fois dans l'ère de James Bond que, en fait, les films se suivent littéralement. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, de Casino Royale jusqu'à Mourir peut attendre, en fait, les cinq films peuvent se regarder comme des suites directes, avec des personnages qui reviennent et qui vraiment, en fait, ont un rapport, parce que Felix Leiter, il revenait, dans plein de films où des fois t'avais des actrices en fait qui jouaient James Bond qui revenaient en fait dans d'autres films, mais c'était pas les mêmes personnages, tu vois. Là c'est les mêmes persos,
ça s'enchaîne,
ils ont vraiment en fait voilà, et en gros ce film existe donc par rapport à ce qui a été mis en place dans les précédents films, mais aussi par rapport à ce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait en fait dans la franchise. Donc du coup au final, en termes de narration pure et dure, ce qui reste c'est ça. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est de l'obligation, on va dire, de James Bond, ces moments où, en fait, il faut faire plein de trucs super technologiques avec des super technologies de nanotechnologie, de machin de bidule pour sortir un gars d'un... Enfin, tu vois, tu te dis, OK, ça marche comment ? Mais et en fait, ils prennent pas du tout le contexte de qu'est-ce que tu pourrais avoir, en fait, technologiquement aujourd'hui, de vraiment... T'as vraiment l'impression que c'est... c'est la montre laser, tu vois, ou ce genre de truc. En fait, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est des trucs genre, si on dit le mot nanotechnologie, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Et en fait, si tu veux, t'as envie enfin, je sais pas, si vous voulez faire un truc pseudo-réaliste, parce que c'est ça aussi Casino Royale, c'est que ça sortait de l'époque. Alors, on s'entend, hein, pseudo-réaliste, mon cul, mais tu vois, je veux dire, ça sortait de l'époque de Bourne et tout ça, etc., etc. Ça pompait littéralement ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Casino Royale existe de cette manière-là parce que, en fait, il y avait Jason Bourne 2-3 ans avant, quoi. Donc, si tu veux vraiment créer ce truc-là autour de ça, bah, arrête de faire dans ce cas-là, arrête de. Mais ils peuvent pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une problématique familiale aussi, James Bond. C'est-à-dire qu'en gros, Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, c'est les enfants de Broccoli et Salzman, et en gros
les producteurs originaux
sur les 15 premiers. Et en gros l'idée, même
ils ont à gérer un héritage, on va dire, et un héritage d'autant plus compliqué que faut pas le sous-estimer non plus, hein. James Bond, c'est au-delà du fait d'être une franchise de cinéma, c'est aussi un symbole d'eux, c'est quelque chose qui a toujours été très très proche à tout point de vue des services secrets anglais. D'ailleurs, pour eux, c'est leur représentant, donc ils vont pas non plus laisser n'importe quoi se faire avec ce personnage-là.
Au fil des
décennies, en fait, tous les intérêts britanniques ont été défendus par la franchise Bond. À l'époque où il fallait faire des talibans les nouveaux héros de la liberté, James Bond allait faire copain avec les talibans en Afghanistan. Et là, ce truc qu'on a aujourd'hui sur l'ADN ciblé par des nanobots qui font en gros un virus spécifique à la personne en fonction de son code ADN, ça fait partie des délires qui sont questionnés assez ouvertement par ces services secrets. Donc ils font avancer leur propagande, il y a aussi cet aspect-là, hein, qu'il faut pas oublier dans les James Bond, ça c'est aussi de la propagande.
Mais avec la logique aussi, donc vis-à-vis de James Bond, de tuer le père, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, le truc qui est très étrange, c'est que Broccoli, le père, avait dit en fait, faites ce que vous voulez, ne baisez pas la franchise. C'était vraiment, c'est limite, t'as l'impression que c'est des mots sur son lit de mort, tu vois. Et en fait, en gros, d'une certaine manière, alors moi je pense que la franchise était baisée depuis un moment, hein, en vrai, hein, moi je suis très bizarre, hein, ce que je vous disais en antenne, en fait, moi je suis né dans les années 70, donc mon James Bond à moi à la base c'est Roger Moore, j'aime pas du tout les Roger Moore, j'ai un fétichisme en fait pour Sean Connery, pour moi ça s'arrête, le dernier vrai James Bond c'est au service secret de sa majesté, et après c'est 8. Tu vois, c'est plus rien à foutre, quoi. Et en gros, y a peut-être un ou deux que j'aime bien comme ça, mais c'est pas des bons films, quoi. Et en vrai, c'est pas normal parce que je devrais pas être nostalgique de ce truc-là. C'est que ça veut dire que ça représente quand même quelque chose de très spécifique, très ancré dans sa période. Et en gros, pour moi, James Bond, ça aurait dû s'arrêter dans les années 60. Et en vrai, ça fait...
Plus de 20 ans,
films qu'on tire à la ligne.
Ouais,
donc,
ouais.
Donc voilà. Mais après, toute cette idée, donc c'est quelque part, ils l'ont quand même fait, ils l'ont quand même baisé la franchise, en fait, de toute manière. Mais pas en termes de financement, en fait, pas en termes de ce que ça rapporte, parce que c'est énorme, en fait, ça n'a jamais autant rapporté d'argent. C'est pour ça aussi que Daniel Craig, par la force des choses, même si ce n'est pas mon cas, et apparemment il est extrêmement populaire dans ce rôle-là. Donc bon, ben, je m'incline, hein, mais c'est vrai que, comment dire, c'est... Et oui, ce qu'on disait, en termes de film, ça se tient
en termes de film, ça, voilà, on revient au début, en termes de film, ça se regarde. Il faut quand même au moins lui reconnaître ça. Ce qui est pas... moi, je sais que je n'ai pas vu Spectre, mais j'avais vu Skyfall, qui... pour le coup avait un visuel absolument magnifique, mais derrière il y avait rien quoi à se mettre sous la dent en termes, j'entends, de d'ingéniosité des scènes d'action, etc. Là où au moins il y a, comme le dit Stéphane au début de l'émission, cet effort de créer des séquences avec une idée aussi simple soit-elle, comme celle de l'escalier, du plan séquence dans l'escalier, mais au moins elles sont là. Il y a cette volonté là, il y a un travail de chorégraphie, un vrai travail de cascadeur. C'est en plus une nouvelle équipe, hein, je crois, qui gère les cascades dans celui-ci. Enfin voilà.
Je crois
qu'il y a des choses qui font qu'on se déplace pour aller voir ces films-ci. Il faut aussi rappeler aux gens qui nous écoutent que voilà, en tant que film d'action, vous n'allez pas non plus perdre votre soirée à aller le voir. Dans l'héritage de la franchise, c'est un autre problème, et il y a cet aspect d'amour-haine et de rapport compliqué avec le passé qui est toujours pas géré, mais qui est aussi à l'image de la société dans laquelle on vit, qui a envie de régler ses comptes avec ce passé lointain sans savoir de quoi ce passé était fait concrètement.
Écoutez, ça me paraît être une excellente conclusion. Donc, si vous voulez vous faire votre propre avis, évidemment, vous pouvez aller voir Mourir peut attendre. Hein. Il sort en salle ce mercredi 6 octobre. Mais donc, en tout cas, ici, on vous recommande d'aller le voir.
Parce malgré tout.
Malgré tout, ça reste du vrai cinéma. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de Candyman de Nia DaCosta, un remake reboot qui n'avait pas franchement emballé l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensez.
Salut à vous, l'équipe de Capture Mag. Ben déjà, félicitations pour votre travail. Je vous écoute toutes les semaines avec grand plaisir. Alors, cette semaine, c'est au tour de ce odieux remake de Candyman. Je trouve que rien ne va dans ce film. C'est une catastrophe. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'original. Pour moi, l'original est un chef-d'œuvre. Là, on est très, 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 très loin. Le message sociopolitique d'une lourdeur pas possible, comme pour toutes les productions de Jordan Peele que j'exècre, absolument. Rien ne va, hein, c'est mal foutu, ça ne fait pas peur, le script est catastrophique, c'est une suite, hein, clairement, du premier Candyman. Dans l'absolu, c'était pas forcément une mauvaise idée, mais c'est tellement mal exécuté que c'est à éviter scrupuleusement. Surtout, ne regardez pas ce film.
Bon, le film n'a pas grand intérêt, on a vu bien pire, mais on a surtout vu beaucoup mieux. Je voulais surtout parler du gros crachat fait à la gueule du personnage d'Hélène dans l'original. Et je dis pas ça parce que Virginia Madsen est un fantasme de jeunesse, pas du tout. Alors on se prive pas de la citer, mais on évoque jamais le fait qu'elle est un peu devenue Candyman à la fin du premier quand même. Et puis elle le sauve le bébé, donc faire du nouveau héros un martyr voué à devenir le méchant, ça fout en l'air tout ce qu'essaye de raconter Candyman, notamment sur la question sociale. Et ça c'est franchement dommage.
Salut Capture Mag, bon je vais défendre un petit peu Candyman, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est surtout l'histoire que je trouve sympa, en étant la mythologie du premier, on suit ce qui arrivait à certains protagonistes, sans trop spoiler. Après on va pas se mentir, c'est vrai que ça manque un petit peu d'ambiance, ça fait pas peur, y a pas le côté crasseux, avec genre les abeilles qui sortent d'un cuvette de chiottes. Y a pas le charisme de Tony Todd et ça manque beaucoup. Le côté prétentieux artistique, je trouve que ça aurait pu être une bonne métaphore, mais c'est vrai que comme c'est pas très lié, le film devient un petit peu ce qu'il cherche à critiquer. C'est sympa, on n'en sort pas déçu, donc voilà, moi, bon film pour moi.
Moïsakis, 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 Moïsakis. Oh, bah ça va en fait, c'est pas si terrible. Grosse bête.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Stéphane, merci.
Merci Clémence.
Alain, merci également.
Merci.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, un petit rappel, on a changé de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez aussi nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. Salut!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.